1900, au cœur du centre-ville. Je suis libraire, je suis fleuriste, café ou restaurant. Mes clients viennent me voir, je les connais souvent. Je les conseille, je les comprends, je suis essentiel, vous pouvez me croire, je suis essentiel. Je suis essentiel. Je suis essentiel. Je suis essentiel.
Nous sommes lundi matin, il est 8h et comme tous les lundis, des premiers lundis du mois, eh bien à 8h c'est l'heure de Tous Essentiels, l'émission consacrée aux revenus de base avec Virginie. Bonjour Virginie, ça va bien ?
Bonjour Max, et toi comment tu vas ?
Eh bien ça va, ça va. On a des invités aujourd'hui il me semble.
Oui, on a vraiment de la chance, on en a deux, pour le prix d'un, c'est sympa quand même. Hein. Et ils sont venus de loin, je les vois.
Aujourd'hui, on fait à distance, mais en visio. Voilà, une grande première. Alors, je voudrais dire d'abord bonjour à Maryse et Serge.
Bonjour.
Et une petite bonjour. Pensée vers Yolan. Et ils vont se présenter et vous présenter Yolan pour qui ils vont parler. Qui êtes-vous?
Bah, j'ai peut-être commencé. Hein. Effectivement, je m'appelle Serge. Je suis un des enfants de Yolan Bresson, hein, qui a 5 enfants. Donc nous, on a vécu le revenu de l'existence de l'intérieur, hein, puisqu'on en parlait quand même à table assez souvent. Donc moi, je suis enseignant-chercheur en physique à l'Université Picardie-Jules Verne, donc à Amiens. Donc, actuellement, là, je suis à Amiens, donc c'est pour ça qu'on est en visio. Voilà. Et ma femme, Maryse, qui est la deuxième invitée, qui va se présenter de son côté.
Alors, effectivement, je suis Maryse Bresson. Donc, ça fait 30 ans que j'ai épousé Serge. Donc, j'ai vécu aussi un certain nombre de repas familiaux avec Yolan. Et effectivement, je suis aussi universitaire, donc, mais en sociologie. J'ai une formation de sociologue et d'économiste aussi. Donc, voilà. Donc, du coup, moi, j'ai aussi regardé ces questions plus avec ce regard. Donc, je suis spécialiste des questions de pauvreté, précarité, notamment en sociologie.
Ce qui peut toucher quand même de près la question du revenu de base. Alors, je vais vous passer à la moulinette de notre rituel. Une petite question. Imaginez, à partir de demain, tous les mois, vous recevez suffisamment pour vivre. Ça tombe sur votre compte. Il n'y a rien à faire, c'est à votre nom et c'est jusqu'à votre mort. Qu'est-ce que ça changerait pour vous?
Eh bien, il se trouve qu'on l'a fait en grande partie pour nos enfants. Le fait de mettre de l'argent de côté pour eux, puisque normalement, le revenu de base ou le revenu d'existence qui était défendu par mon père, c'était le fait qu'à partir du moment où on existe et qu'on intervient dans la vie de la cité, on doit avoir un revenu en conséquence. Donc, dès la naissance de nos enfants, on a décidé de mettre de l'argent de côté. Au départ, pour essayer qu'ils aient 15 000 euros à 16 ans, on a réussi à faire. Et après, c'est à eux de dépenser les sous comme ils le souhaitaient. Donc, chacun l'a fait de manière différente, d'ailleurs. Il y en a un qui a tout gardé et les deux autres ont plutôt tout dépensé. Voilà. Mais c'est eux qu'on choisit. Et encore maintenant, on leur donne à peu près 400 euros par mois, même si pour certains, ils travaillent déjà. Mais en région parisienne, c'est difficile de vivre avec 1600 euros, 1700 euros, sachant qu'un loyer, c'est à peu près 1000 ou 1100 euros. Donc, du coup, on continue encore maintenant à donner ce revenu d'existence. Donc, on l'a appliqué. Voilà, pas pour nous, parce que normalement, nous-mêmes aussi, nous devrions recevoir les 400 euros, puisque à partir de
moment, oui, voilà, base, c'était pour tout le monde.
Mais... mais on l'a fait pour les enfants, et ça a un impact, c'est clair. Hein, nos enfants ont pu faire des études, parce qu'au départ, c'était pour ça aussi qu'on le voulait. C'est-à-dire qu'on ne soit pas embêté par le fait de ne pas avoir assez d'argent pour financer leurs études, parce qu'on voulait qu'ils aillent jusqu'au bac plus 5. Donc, il y a des écoles privées qu'on a dû payer en partie, voilà. Donc, tout ça, ça a servi à leur développement personnel et puis professionnel, et on en est bien content. Donc,
Donc, ce que j'entends, c'est que le revenu de base pour vous, si, en tout cas, vous l'avez déjà mis en place et ça vous a permis de goûter qu'en tant que parent, y a un côté rassurant de pouvoir apporter à ses enfants un minimum de sécurité. Et j'entends beaucoup de liberté parce que vous leur avez Exactement. Vraiment laissé la liberté sur ces 15 000 euros sans jugement. Enfin, waouh! Mais alors, tu réponds pas à la question, Serge, enfin, en tout cas en partie, mais toi, si toi tu l'avais, qu'est-ce que ça changerait pour toi ou qu'est-ce que ça aurait changé? Est-ce que tu aurais continué à travailler, par exemple?
Déjà, bon, on est enseignant-chercheur, on est très diplômé, hein, mais le salaire qu'on a n'est pas forcément en conséquence par rapport à nos diplômes. Et du coup, pour justement aider les enfants, on est obligé de faire des heures complémentaires, on est obligé de faire des cours ailleurs, ce qu'on ne ferait pas si on avait 400 euros de plus par mois chacun, ça fait 800 euros sur le mois. Donc, on serait des plus libres, nous, pour faire autre chose. Pour l'instant, on est à travailler plus. Et si j'avais cette somme-là, ça me permettrait de travailler moins.
Et du coup, se voir plus. L'une à Paris, l'autre à Amiens. Bon, pour les bisous, c'est un peu loin quand même.
Oui, bah, je fais les allers-retours.
Et vous êtes toujours à l'écoute des programmes de Radio Campus sur le 106,6 pour cette émission Tous Essentiels consacrée aux revenus de base. On continue immédiatement avec une petite pause musicale, L'Argent Ignatius.
Feeling spry, 22,983, take one.
Je sais que tu n'es pas d'accord avec la façon dont parfois je traite les gens. Tu sais, ça n'est pas si facile de s'assumer, mais il faut bien gagner de l'argent. Alors, tu n'as que 18 ans, mais bientôt tu comprendras mes difficultés, la chance ne m'a pas toujours souri et c'est vrai que je ne peux plus vraiment reculer. Mais l'argent, 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 de l'argent pour les gens, de l'argent, de la thune, du flouze, du blé, sans sortir, sans argent, c'est compliqué. L'argent, toi t'es bien content de pouvoir profiter de la situation. Mon job te cause moins de problèmes de conscience quand tu veux que je te file du pognon. Bien sûr, assassiner des gens, ça n'est pas ce qu'il y a de mieux comme profession. Et j'espère que bientôt tu trouveras un boulot qui répond à tes aspirations. Mais l'argent, 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 de l'argent pour les gens, de l'argent, de la thune, du flouze, du blé, sans sortir, sans argent, c'est compliqué. L'argent, l'argent, oh, 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 de l'argent pour les gens, pour le frigo des pauvres, pour les impôts des riches, pour donner l'aumône et le bakchich. L'argent, 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 de la thune, du flouze, du blé,
Voilà, merci beaucoup.
Ça rembourse alors... juste le trajet, là.
Très touchée de vous avoir tous les deux parce que Yolande Bresson, je l'ai rencontrée au tout début du mouvement français pour le revenu de base, dont il est cofondateur. Donc, il a fait partie de cette mouvance, on en reparlera le mois prochain, mais de ces plus quelques personnes qui défendaient l'idée et une version et qui se sont réunies autour de l'idée pour créer l'espace de discussion qu'est le MFRB. Et il nous avait présenté sa version qui m'avait beaucoup intéressée. Hélas, il nous a quittés trop tôt pour l'apporter vraiment. Et pour moi, c'est vraiment important d'aujourd'hui laisser sa place à son travail et à travers vous, voilà, découvrir un petit peu quel monde il ambitionnait et comment il a contribué à construire un petit pas qui est possible, qui est complètement crédible et réaliste, réalisable dans un court terme, en fait. Et c'est assez intéressant comme version aussi, par son ambition et par... Oui, par son réalisme, je dirais. Est-ce que vous pouvez commencer par nous dire un petit peu, ben justement, de quelle société rêvait Yolande, en fait ?
Ah, je vais peut-être laisser parler un petit peu Maryse.
Oui, en fait, je crois que vraiment le fond de l'idée, c'est une société solidaire. Alors pour ceux qui connaissent un peu, hein, il y avait le solidarisme de Léon Bourgeois au 19e siècle qui essayait vraiment de construire une solidarité aussi entre les générations et de prendre en compte le fait que quand on est on a quelquefois une idéologie qui pense voilà, on va gagner, on va avoir des choses à hauteur de son mérite. Mais un enfant qui naît, il n'a pas encore du mérite. C'est ridicule de penser ça. Et donc l'idée de base, c'était que tout le monde ait une part de ce que les générations d'avant, toutes les générations d'avant et les sociétés la société avant nous a créé. Et donc, c'est vraiment fonder quelqu'un comme membre de cette communauté, de cette société, et qui a droit, comme tous les autres, à un certain montant de la richesse qui est créée. Donc, c'est une société profondément solidaire et d'une certaine manière, en tout cas, avec une forme d'égalité des chances au départ. C'est ça le principe de base. Et donc, ce que disait beaucoup Yolande, il y a beaucoup de conceptions hein, par rapport au revenu de base, mais je crois que sa conception, c'était aussi, c'était pas tellement, même si évidemment l'idée est là, hein, un revenu pour exister, pour compléter les revenus, mais c'était parce qu'on existe et parce qu'on est d'emblée pensé comme un membre de la collectivité qui peut bénéficier de tout ce que la collectivité a construit au cours de son histoire longue et qui va pouvoir y contribuer aussi. Alors, la deuxième idée importante, c'est que la richesse, et c'est ça aussi qui fonde les liens hein, dans la société telle qu'il l'a pensée, la richesse, elle ne vient pas uniquement du travail, elle vient du temps qu'on passe. Et on parlait du temps qu'on passe en famille, du temps qu'on passe aussi au loisir, etc. Donc, il avait sa théorie du capital temps. Et c'est une société qui reconnaît le temps qu'on passe les uns avec les autres et qui fait de ça finalement le cœur de la richesse à distribuer. Donc, ce n'est pas juste ceux qui font des efforts, qui ont des sous et qui redonnent un petit bout aux autres avec toujours un soupçon d'assistanat. C'est vraiment tous ceux qui participent aux échanges, y compris à la vie sociale, qui ont droit à une partie de ce que cette société crée. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été claire par rapport à ça, mais en tout cas, je crois que c'est vraiment l'idée philosophique voilà, qui est importante pour lui.
Bah, c'est comme ça qu'il nous l'a présenté à table, ouais. En tout cas. pendant
le dessert, il dit... aussi, parce que j'ai quand même regardé un peu cet ouvrage. Donc, d'ailleurs, je voulais dire, voilà, il y a ma belle-mère, du coup, la mère de Sage, qui a republié deux ouvrages récemment sur le revenu d'existence ou la métamorphose de l'aide sociale en 2022. Et voilà, donc, du coup, c'est une republication récente et j'ai fait la postface aussi, où j'essaie de dire ce que j'ai compris, en tout cas, notamment de cette question philosophique qui m'avait particulièrement intéressée.
Voilà.
Ce qui me touche beaucoup dans cette vision, c'est que par rapport à d'autres, peut-être, c'est qu'il y a vraiment une prise en compte des générations passées, de tout le capital accumulé, qu'on a tendance à oublier finalement. Enfin, mon grand-père, il a été ouvrier, ben oui, c'est en partie grâce à lui qu'on a nos techniques d'aujourd'hui, etc. Il y a aussi ce côté vraiment accueil de l'individu, mais pas seulement comme... Alors, avec une confiance en termes d'individus, a priori, au-delà du mérite, comme tu l'as bien dit, Maryse, dans tous nos... On nous rabâche aujourd'hui la valeur, alors que a priori, enfin, si on la regarde bien, elle n'est pas là où on dit qu'elle est. Et cet accueil inconditionnel de chacun, comme l'amour inconditionnel que tout enfant a le droit d'avoir. Et donc, ça m'intéresse beaucoup de voir comment cette version s'appuie vraiment sur une réflexion oui, philosophique.
C'est pour ça qu'il y avait deux conditions, il y a deux choses importantes. J'ai réentendu, du coup, pour préparer l'émission, là, enfin, on a réécouté une conférence de Yolan en 2014, hein, peu avant sa mort. Et en fait, il insistait sur deux points, mais qui sont complètement en cohérence avec cette logique. D'abord, le revenu, l'accueil est inconditionnel, et le revenu doit donc être inconditionnel. Donc, c'est pour ça qu'il y a différentes conceptions, mais qui ne conviennent pas du tout à la sienne de ce point de vue-là. Hein. Un, le revenu doit être inconditionnel, et deux, il est le même pour tous. Il ne faut pas que les enfants aient moins que les adultes, etc., puisqu'on est dans cette logique, effectivement, où c'est tout individu qui est accueilli de la même manière, parce qu'il a mérité autant que les autres. Il n'y a pas une question de mérite, justement. Il a ce droit à sa part autant que les autres.
Voilà. C'est parce qu'il échange le même temps. Hein, c'est-à-dire oui, qu'on a changé de variable. C'est pour ça qu'il parlait de l'après salariat. Parce que pour lui, on changeait de paradigme. Et le fait de prendre cette valeur temps qui fait qui permet de faire le calcul justement du montant. Parce qu'il a essayé justement dans sa théorie du capital temps de pouvoir, quel que soit le pays, déterminer la valeur exacte de ce revenu suivant les propriétés du pays en question. Donc, c'est cette valeur temps là, qui était vraiment tout à fait nouvelle, c'était une idée tout à fait nouvelle à l'époque, et qu'il a voulu défendre, et qu'au fur et à mesure, effectivement, dans les différents revenus qui se sont greffés sur le sien, c'est pour ça que lui, il l'appelait le revenu d'existence, et qu'il ne l'appelait pas forcément le revenu de base, parce que pour lui, c'était inconditionnel, et c'était par le fait qu'on échangeait le temps simplement avec les autres. Et à partir de ce moment-là, on intervient dans la société. Donc, voilà. Donc, c'est ça qui était un petit peu différent. Alors, après, il s'est posé la question, évidemment, parce qu'on lui posait aussi la question, oui, mais si on donne le revenu d'existence, est-ce que on garde les allocations familiales? Est-ce qu'on garde toutes les aides, le RSA, toutes ces choses-là? Alors, lui, il était prêt, effectivement, à enlever tout ça au départ. moi, je ne suis pas tout à fait sur ce point de vue-là. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut enlever comme les allocations familiales, parce que ça revient un peu ça pour les enfants. Voilà. Donc, on le touche nous-mêmes, donc c'est la famille au sens large. Voilà. Parce que de toutes les façons, et la somme qui était calculée, il nous le disait bien, de toute façon, ne suffit pas pour vivre. Complètement. Donc, de toutes les façons...
Lui, son calcul, c'était 400 euros environ, hein, donc en 2014. Il était à ce montant-là. Donc, sur la base de tout ce qui a été créé par les générations qui nous précèdent, il pensait qu'on pouvait d'emblée distribuer à tout individu de l'ordre de 400 euros. Et évidemment, ça se cumule, donc ça enlève un bon nombre d'arguments aussi à ceux qui disent que plus personne ne voudra rien faire. Hein. Ça se cumule à tous les revenus d'activité. Et après, là, on peut garder des systèmes ou non de redistribution de... Mais en tout cas, c'est une répartition dès le départ. Donc, j'ai réécouté l'exemple qu'il donnait, c'était celui du jeu de cartes. Et il disait, voilà, quand on a un jeu de cartes, on a quatre personnes qui jouent, par exemple. L'idée, c'est que d'emblée, on donne un as à chacune des quatre personnes qui jouent à la belote. Non, je dis ça par exemple, là, je connais la belote. Et donc, du coup, voilà, c'est ce qu'on fait d'emblée. En tout cas, d'emblée, on leur donne 400 euros, sur la base desquels ils vont pouvoir construire des échanges, choisir les échanges qu'ils nouent. C'est ça l'idée, je pense, fondamentale aussi, parce que ils y ont droit comme tout le monde. Et après, ça n'empêche pas que la société, elle peut s'organiser en ayant ça déjà comme socle de solidarité. Alors, la base, c'est plus la solidarité que le revenu, en fait, de ce point de vue.
Et vous êtes toujours à l'écoute des programmes de Radio Campus sur le 106,6, mais également le www.campuslille.com pour cette émission qui s'intitule « Eh bien, tous essentiels ». Et dans « Tous essentiels », on parle du revenu de base, tout comme Renaud Bistandron, sa chanson « Les chômeurs de mon quartier ».
Les chômeurs de mon quartier devraient être salariés pour leur bonne humeur et leur disponibilité. Leur présence bienveillante fait qu'autour d'eux tout s'enchante comme un repère important qu'on peut trouver tout le temps. Comme un service public, le chômeur te renseigne quand tu cherches une rue sur un plan et que t'es pressé. Tu comprends tout de suite que tu frappes à la bonne enseigne. Te donne de son temps sans aucune arrière-pensée. Les chômeurs de mon quartier devraient être salariés, car ils répondent présents à chaque déménagement. Ta voiture a un souci et ils plongent dans le cambouis. T'as une panne informatique et voilà l'esprit pratique. Ils sont tellement compétents dans de multiples domaines que de n'en choisir qu'un, ce serait du gâchis. Faire bêtement la même chose toute la semaine, alors qu'ils aident chacun à être mieux dans sa vie. Les chômeurs de mon quartier ont chacun 12 000 métiers. Commenter la météo, t'aider à faire ton créneau, ça ne paraît pas grand-chose. Mais dans nos villes moroses, d'égoïstes et de nerveux, ben, ils mettent du ciel bleu. Quand j'ai besoin de parler autour d'une tasse de café, où est le psy bénévole qui m'écoutera des heures? Ce sont les copains chômeurs, toujours prêts à se sacrifier. C'est bien simple maintenant, je les appelle docteurs. Mais il y en a des traîtres, des chômeurs malhonnêtes, et qui du jour au lendemain se remettent au turbin. Par une journée un peu triste où tu passes à l'improviste pour mater un DVD, le chômeur t'a planté. Il a rejoint la cohorte des gens stressés par la vie, piqué par le démon de la reconnaissance sociale. D'un air pincé, il te dira, on peut se voir samedi, que c'est triste de voir un copain trouver du travail.
Puisque ce que j'aime bien aussi dans sa façon d'envisager en fait ce revenu, c'est que en partant du capital temps, il rééquilibre aussi toute la valeur donnée à n'importe quelle activité. Au-delà des hiérarchies qu'on fait aujourd'hui en mettant l'emploi tout en haut, alors qu'on sait bien qu'il y a des emplois toxiques, il y a des emplois toxiques pour la personne qui les fait déjà, toxiques pour la planète, toxiques pour les autres. Il y a des emplois qui demandent beaucoup d'énergie sur une heure de temps, d'autres beaucoup moins. Enfin voilà. Donc il y a une inégalité de fait déjà dans l'emploi et on voit que le bénévolat en France, c'est 2/3 des heures de travail. Donc c'est énorme et sans le bénévolat, alors que ce soit moi avec mon enfant, avec la gamine de la voisine que je vais chercher à l'école, ou enfin voilà, n'importe quoi finalement que l'on fait, c'est de la richesse, c'est du lien et sans ça, notre société ne survivrait pas. Enfin, on l'a vu au moment du confinement, quoi. Donc ce que j'aime bien aussi, c'est grâce à cette valeur temps, il y a quand même une égalité minimale, voilà, donnée au temps que chacun contribue. Et on retrouve, alors pour ceux qui connaissent, le système d'échanges locaux qui sont basés là-dessus, c'est-à-dire qu'on échange du temps, quel que soit le service. Alors, si j'aide quelqu'un à faire ses devoirs ou si quelqu'un m'aide à peindre ma chambre, c'est exactement le temps qui est compté, donc on a 60 grains de l'heure, etc. Donc on voit aussi comment c'est aussi un pas de côté de considérer que la valeur d'une activité, c'est pas, elle n'est pas soumise au marché qui dirait de façon complètement subjective tel service vaut plus parce que, alors on a parlé des études ou même en termes de pénibilité, voilà, c'est tous pareil. Chaque heure de temps, parce que c'est une heure qui nous approche vers la mort, c'est une heure qu'on offre de notre vie, et elle vaut égalité. Ça, c'est aussi très intéressant.
Alors, en termes de mise en place cette fois-ci, donc vous avez parlé du montant. J'ai entendu 400 euros voilà, de façon volontaire, c'est pas suffisant pour vivre.
Par individu, hein, voilà, c'est pas pour la famille, là, c'est par individu. Donc chaque enfant aussi a 400 euros. Voilà.
Et j'avais entendu, parce qu'il est venu présenter sa version au MFRB lors d'une AG, et il nous avait parlé d'euros francs. Et donc, il partait d'une forme de création monétaire assez originale et je dirais presque révolutionnaire, surtout quand aujourd'hui, on n'arrête pas de nous parler de la dette qui en fait nous en sert pour pas grand-chose, qui en tout cas en grande partie complètement trafiquée, puisque ce qu'on a emprunté est très loin de ce qu'on doit, puisqu'il y a des taux d'intérêt qui fluctuent et qui remplissent des poches qui n'ont rien fait pour les mériter, voilà pour le coup. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu comment il voyait ça?
Alors, moi, je veux bien essayer, mais je précise quand même, s'il y a des économistes qui nous écoutent, que j'ai bien conscience, étant sociologue maintenant, de ne pas être économiste et que j'ai pas tous les mécanismes. Mais cela dit, je vais dire ce que j'ai compris et voilà. Et bon, et après, évidemment, il faudrait revoir plus en détail dans sa théorie. D'abord, je voudrais dire que c'est vraiment Yolan qui a amené cette idée de revenus même de base, enfin de dans toutes ses formes, hein, notamment dans le débat en économie en France, et qui l'a crédibilisé. Et donc, si c'est bien un des apports voilà, qu'il faut lui reconnaître, c'est qu'effectivement, il a construit une théorie économique qui a semblé crédible, y compris aux économistes. Voilà. Alors, je voulais dire, ils sont quelquefois très exigeants sur ces questions. Et il avait, voilà. Donc, alors, après, effectivement, quand on réécoute son idée, c'est clairement la création monétaire. Donc, c'est-à-dire que pour mettre en place, mais je pense que autant ça pouvait faire peur dans les années 80, autant depuis, on en a eu plein de créations monétaires, y compris au moment du Covid et de la crise sanitaire. Donc, on sait bien que c'est pas parce qu'on crée de la monnaie qu'il y a forcément… il y a un peu d'inflation maintenant, mais d'ailleurs pour d'autres raisons aussi en partie, hein. Mais voilà, c'est pas forcément une catastrophe. En tout cas, son idée, c'était clairement la création monétaire au départ. Donc lui, il avait trois idées successives qu'il a développées. Sa préférence aurait été pour que ce soit la Banque Centrale Européenne qui fasse une création monétaire, effectivement, hein, et qui distribue directement aux individus, puisque c'est chaque individu. Alors après, il a aussi les règles, notamment, est-ce que c'est aussi une gestion par la famille au départ, sans doute. Enfin voilà, donc là, il y a des choses à voir, hein, surtout si ça remplace les allocations familiales. C'est autre chose si c'est comme nous, on a essayé de le faire, un pécule pour le jeune quand il devient adulte. Ça, c'est aussi des choix politiques à faire, évidemment. Mais en tout cas, lui, il pensait que ça devait être géré directement par la Banque centrale. Sauf qu'il disait, la Banque centrale, ne nous leurrons pas, elle fera pas ça à l'échelle de la Banque centrale, d'autant que, voilà, c'est pas la politique favorisée, on va dire, à cette échelle. Donc, du coup, sa deuxième idée… Ah bon, tu veux ajouter quelque chose?
Oui, j'interromps un tout petit peu pour faire une micro-parenthèse. Il y a un groupe au niveau européen qui essaye quand même que ce soit la Banque centrale européenne qui distribue, plutôt que de donner aux banques privées qui se remplissent encore plus leurs poches sans nous prêter plus que ça finalement, hein, parce que les taux d'intérêt quand ils étaient à moins 2% continuent quand même à nous les vendre à plus 1%, donc je mets quand même 3% dans la poche. Bon, ça dépasse un petit peu leurs frais quand même. Et je vous oriente pour ceux qui sont intéressés par cette piste-là quand même.
Vers le site Quantitative Easing for People, donc vous tapez QE4 People, P-E-O-P-L-E, pour trouver les informations.
Non, mais c'est une parenthèse importante parce qu'effectivement, cette création monétaire, en fait, là, elle va servir directement et elle va être injectée directement dans l'économie. C'est pour ça aussi qu'elle ne se traduira pas forcément. Bon, ouais. Alors après, il disait, si la Banque Centrale Européenne ne veut pas, ça pourrait être en France, puisque là, il est raisonné à l'échelle aussi des pays, hein, qui ont leur démocratie, qui font leurs choix, etc. Et donc, c'est la Banque Centrale Française qui pourrait tout à fait prendre la main sur cela. Et là, par contre, ça, c'est une décision en France. Alors, c'est vrai qu'il y a une forme, il y a une autonomie aussi, et puis voilà, mais en tout cas, on peut réactiver une fonction de la Banque centrale française qui ferait cela s'il y a un choix de ce point de vue.
Ben, si, mais je voudrais vraiment poser un point pour être sûr qu'on soit bien compris. On ne sort pas de la zone euro parce qu'on entend aussi des discours de ce type-là. Donc, tout ce que tu présentes, on reste dans la zone euro et on rajoute une création
Voilà.
monétaire au niveau national.
Donc là.
Alors, je vous propose une petite pause musicale, Max. Qu'est-ce que tu as dans ton escarcelle?
Eh bien, je te propose une chanson de Chanson Plus Bifleuré qui s'intitule tout simplement L'argent. C'est parti, Chanson
L'argent.
Plus Bifleuré sur les ondes de Radio Campus 106,6.
L'argent, c'est des pépettes, des billets, des bifetons, des livrets, des mandats, des SICAV, des actions. C'est du fric, de la mitraille, du liquide, tous ces ronds. C'est du flouze, des dollars, des roupies, des millions. Y'a que le pognon. C'est la bourse, la monnaie, compte en banque, commission, des devises, des placements, fortunés, dotations, plus-value, capital, honoraire, expansion, intérêt, patrimoine, numéraire, provision. Y'a que le pognon. Escudos, pesetas, spéculé, picaillon, des dépôts, du crédit, des plaquets, des bâtons, des espèces, des deniers, du profit, c'est du jonc, des finances, des affaires, créances, obligations. Y'a que le pognon. Des avoirs et des fonds, la galette, la cagnotte, de la braise, des jetons, des escomptes, des produits, des avances, des coupons, c'est des sous, des écus, des gains, des transactions. Y'a que le pognon. Des transferts, des emprunts, plans, des pas, subventions, des revenus, des réserves, c'est du pèse et des ronds, portefeuille, petite coupure, virement, spéculation, c'est la caisse, le trésor, le marché, les options. Y'a que le pognon. Valeur, investissement, richesse, augmentation, résultat, excédent, salaire, brut, cotation. Y'a que le pognon. C'est des pièces, des shillings, des dinars, des doublons, le magot, la tirelire, des milliards, des millions, le CAC 40, le Dow Jones, les rémunérations, des indices et des rentes et des fonds de pension. Y'a que le
gazon la coupée. Blé, 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 blé.
c'est comme si c'était, c'est comme les monnaies locales ou ce genre de choses qu'on fait à l'échelle de la France. Et donc, ces euro-francs ne sont pas convertibles en euros, ce qui fait que ça n'impacte pas sur l'euro. C'est vraiment et à l'intérieur de la France qu'on le dépense aussi, du coup également. Donc, c'était ça sa proposition en tout cas. Et alors si vraiment donc ça n'allait pas, donc ce qu'il a tenté peu avant sa mort effectivement hein, c'est d'aller voir les banques aussi. Alors c'est sûr que si on va voir les banques commerciales, l'avantage c'est que c'est chacun qui choisit la banque avec laquelle il veut travailler. Et que les banques sont très intéressées, mais elles sont très intéressées à condition de prélever un bout, effectivement c'est dit, de ce qui serait donné, des 400 euros notamment. Et son idée, c'est que ça, elles sont prêtes à le créer tout de suite. Donc là, il n'y a pas de problème, avec la garantie d'être in fine remboursée, effectivement, par donc une garantie étatique. Là. Voilà. Qui, effectivement, en fait, ne coûtera vraiment que très peu. Hein. Donc là, c'est vraiment un choix voilà, très faisable économiquement, en tout cas. Tout à fait.
Oui, et sans le fameux risque d'inflation voilà, qu'on nous pose comme une épée de Damoclès ou comme un grand monstre, on rappelle quand même qu'on n'est plus en 1929, que l'économie étant mondialisée et les sommes qui circulent sont très loin de celles de l'époque. Et pour arriver à faire une inflation à ce niveau-là de masse monétaire, on en est très très loin et ce n'est pas 400 euros francs qui seraient créés même par mois et même par citoyen que voilà, ça
et au contraire, serait dans la machine économique et là on relance la demande hein, enfin en termes économiques aussi là. Donc là c'est la consommation, la demande, on a créé beaucoup plus effectivement récemment dans la période Covid hein, donc
Et non seulement on a créé plus, mais on ne l'a pas dirigé forcément vers l'économie réelle, ni les petites gens. Alors oui, là, on a vu tout, même les aides pour l'essence, etc. Mais d'abord, elles sont hyper conditionnées. Donc, ça oblige encore les gens à faire des démarches, à demander s'ils y ont droit et à remplir des papiers, à justifier, etc., d'être pauvre pour mériter d'eux. Voilà, quand c'est juste pour l'essence, pour aller au boulot ou chercher son gamin quand on habite en campagne, voilà, c'est quand même une humiliation supplémentaire et en termes de charge mentale, je ne vous dis pas. Et en plus, voilà, beaucoup des aides ont été données à des très grosses entreprises qui ne payent pas leurs impôts et contre aucun retour, aucune preuve d'embauche. Et idem pour les banques, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui ont quand même eu beaucoup de mannes, et sans pour autant de réciprocité en termes d'accès au crédit et voilà. Donc à la propriété, par exemple, ce qui fragilise beaucoup de gens.
Et là, l'avantage de ce dernier système aussi, mais c'est que ça peut être fait très rapidement, puisque les banques sont plutôt partantes, pour le coup. Donc, du coup, effectivement, ça peut être fait en très peu de temps, en tout cas. Et lui penser qu'en tout, hein, le temps qu'il y ait le remboursement, entre guillemets, mais en fait, ça ne serait pas un remboursement vraiment. Enfin, il pensait qu'en tout, c'était un délai de 5 ans de mise en place. Donc, c'est ce qu'il dit hein, dans sa dernière conférence. Donc, quelque chose quand même de rapide. Pour tout le monde, hein, et tout de suite. Voilà. Donc.
L'autre intérêt des euro-francs, c'est que ça resterait par rapport à la France. Donc, avec le monde mondialisé qu'il y a, où les gens peuvent spéculer avec des euros dans tous les sens, si tu le limites au niveau de la France, on verrait tout de suite que ce serait pour la consommation à ce moment-là et non pour la finance. Parce que ça serait pas mieux du coup, mais... Enfin, c'est une question de...
Oui, Et un autre avantage aussi, parce que là, il faut imaginer qu'il y a des énormes poches avec plein d'argent dedans, mais finalement, il ne sert pas à grand-chose, qui stagne complètement. Et le fait de grandir les petites poches, le seul argent qui perdrait de la valeur, c'est l'argent qui ne circule pas, c'est-à-dire l'argent des grosses poches. Ouais. Donc voilà, les petites poches pourraient récupérer leur capacité à échanger. Et c'est ça, j'ai interrogé une copine qui travaille en banque et qui me disait qu'effectivement, quoi qu'on puisse en penser, alors il y a les comités de direction des banques, ça c'est une chose, mais il y a aussi les personnes au quotidien. qui travaillent, les conseillers, etc. Et qui eux disent que les gens manquent de liquidité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'échanges pour faire de la richesse. La richesse, c'est quand moi j'ai suffisamment d'argent pour aller me payer un coiffeur, quand le coiffeur du coup a cet argent pour aller manger ou nourrir sa famille, etc. Et en fait, l'argent, c'est qu'un fluidifiant finalement, c'est comme le sang dans un organe. Et quand on n'a pas assez de sang, ben, les organes ne peuvent plus suffisamment faire circuler. Si on continue la métaphore, ça serait l'oxygène et les sels minéraux, quoi. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment ça, c'est que rapporter de la fluidité, ça avantage les banques, non pas forcément parce qu'elles s'en mettent plein les poches, parce que là, on est bien au niveau local de la banque, mais juste parce que du coup, ben, elles peuvent créer des richesses, elles peuvent nous aider à créer des richesses. Et effectivement, là, du coup, elles sont contentes parce qu'elles peuvent se faire une petite concurrence. Venez chez moi, venez vous faire votre compte en Eurofranc, parce que ça serait des comptes séparés de nos comptes habituels. Et donc voilà, donc effectivement, ils sont un peu contents, puis avec peut-être quelques frais de compte pour dire de s'y retrouver. Donc voilà, effectivement, en tout cas, je me souviens quand il avait démarché les banques et qu'il était venu nous voir, il avait des étoiles dans les yeux parce qu'il nous disait mais tout est prêt, il suffit d'appuyer sur le bouton. Il n'y a besoin de rien, il n'y a pas besoin de richesse puisque c'est de la création monétaire. Et la France est largement suffisamment riche en termes de savoir-faire, de production même, pour que cette création monétaire soit solvable en fait, et même sur le long terme. Donc voilà, la création monétaire n'est pas un gros mot. Après, effectivement, il faut quand même une volonté politique parce que l'État est quand même dans l'Europe et l'Europe, pour l'instant, ne reconnaît pas la création monétaire à ce niveau-là. En tout cas, ça serait inédit.
Le principal obstacle politique, c'est la difficulté à penser, il en parlait dès qu'il a commencé à travailler, la difficulté à penser que des ressources peuvent être distribuées sans avoir un lien direct à l'activité, l'emploi, dans le cadre emploi. Mais en fait, c'est vrai, on l'a bien vu aussi dans la période Covid, et puis on a rappelé le bénévolat, etc. Il y a plein d'activités qui existent, qui demandent du temps, qui sont utiles, qui sont importantes, et qui n'en sont pas rémunérées ni reconnues comme des emplois. C'est pour ça que la question du capital temps et de la valeur temps est super importante de ce point de vue aussi. C'est ça aussi qu'il s'agit de promouvoir, mais et de penser vraiment. On a bien vu qu'on avait des métiers de première ligne, de deuxième ligne, que ce n'était pas forcément les plus utiles, qui à un moment donné, au contraire, sont sous-rémunérés. Donc, c'est réussir à penser la question des revenus sans se dire que ça va être une catastrophe pour tout le travail, les efforts, etc. Et si c'est le principal blocage, parce que ça, c'est vraiment quand même un mécanisme qu'on entend beaucoup, surtout chez les politiques aujourd'hui. Et pour moi, c'est le principal obstacle, et pas du tout financier, ni organisationnel d'ailleurs.
Non, c'est un obstacle idéologique. Hein.
Oui, exactement. Voilà.
Et je rajouterais même que depuis 2014, il y a eu un pas en avant, puisque là, si on imagine qu'on voudrait le mettre en place, le plus petit pas, ce serait quoi? Il y a quand même la loi de Benoît Hamon qui reconnaît les monnaies complémentaires. Et dans cette file-là, on pourrait dire, ben voilà, c'est comme une monnaie complémentaire au niveau national. Ouais. Alors, il faut remettre, parce qu'on a présenté la version du village Terra qui inclut une forme de revenu de base avec une monnaie locale. Évidemment, ce n'est pas une monnaie qui a de vertu en termes d'économie sociale et solidaire, mais en termes de voilà, recentrer, relocaliser une partie de l'économie, surtout à l'heure d'Amazon et de nos achats sur Internet. Donc voilà, c'est une vraie plus-value
pour les entreprises. Ça favorise la relocalisation d'activité, en tout cas, si on raisonne en termes d'Eurofranc, effectivement, qui était quand même ça un axe qui a été pointé à propos des masques et à propos d'autres choses comme ça, quoi. Donc, on a quand même besoin d'avoir des productions locales en France, si on peut dire, puisque c'est quand même comme ça qu'on raisonne aussi aujourd'hui. Et ça peut le favoriser tout à fait, oui.
Et je fais le lien aussi avec les expérimentations de revenus de base. Bon, je vous rappelle que vous pouvez trouver une carte sur le site revenusdebase.info qui vous récapitule tous les effets. Et parmi les effets, il y en a qui sont très intéressants en termes économiques, où on voit justement le fait de donner de l'argent aux individus, ça les bizarrement peut-être, en tout cas c'est peut-être un contre-intuitif, mais ça les pousse à travailler plus, et notamment en termes de micro-entreprise. C'est-à-dire que les gens vont plus facilement, parce qu'ils sont sécurisés individuellement et aussi à minima leur famille, on en a parlé, hein, ses enfants, etc., et du coup vont plus facilement oser prendre des risques et monter leur petite boîte en adéquation avec leurs compétences, avec leur temps possible de travail, leur énergie, etc. Donc des entreprises qui sont souvent plus pérennes puisqu'elles sont adaptées à la taille de l'humain. Et du coup, ça rebooste non seulement la vie individuelle, ça fait reculer voilà, les maladies professionnelles, les troubles dus au stress, etc. Mais en termes économiques purs, dans un village de 1000 habitants, Namibie, ils ont quand même compté plus de 300% de masse monétaire, en plus de ce qui était donné par le revenu de base, et plus de 30% d'activité. Donc, on peut imaginer que cette relocalisation de la consommation va rebooster aussi, par voie de conséquence, l'offre. Puisqu'il y aura plus de demandes locales obligées. Et du coup, toutes les petites entreprises de production, que ce soit des services comme des biens, seront revitalisées puisque la demande, en tout cas une partie à hauteur des 400 euros francs qui seront donnés, sera réorientée sur le territoire français. Quoi. C'est énorme en termes d'impact.
Ce qui est important aussi, c'est que ça soit bien pensé comme un droit social, je sais pas comment, enfin je dirais comme ça pour ici, parce que effectivement ça ouvre les possibilités et ça ouvre d'abord des possibilités que personne ne soit à l'écart. Après, c'est sûr que si on craint que certains s'en saisissent pour réduire d'autres droits qui beaucoup sont attachés au travail ou à l'emploi aujourd'hui. Ça peut effectivement susciter des craintes et à juste titre aussi. Hein. Si on pense que on va enlever de la retraite, enlever de l'assurance maladie, etc. en prenant ce prétexte-là, c'est sûr que ça va poser des problèmes. Donc on n'évacuera pas complètement la question, je pense, de la confiance à produire autour du dispositif et d'une garantie qu'il s'agit bien d'un droit social et pour le coup d'une avancée social, même si c'est plus à la mode, mais je pense que c'est quand même une condition pour que ça marche. Voilà, donc là c'est ma touche personnelle. Hein. Je ne suis pas sûre que Yolande aurait parlé comme ça.
Et on voit bien qu'il y en a qui n'ont même pas besoin de nous endormir avec un revenu de base ou un revenu d'existence pour démolir tout ce qui existe déjà. Façon, donc, Et à l'inverse, on voit aussi, pareil dans les expérimentations, que quand il y a un revenu de base, les gens s'impliquent beaucoup plus dans leur communauté, que ce soit en termes associatifs ou politiques, au sens prendre des responsabilités.
Oui, ils ont une place d'emblée. Donc c'est un socle sur lequel ils peuvent effectivement davantage consacrer du temps autour d'eux, quoi. Ça c'est sûr.
Donc, citoyens à part entière, quoi. Ouais.
Max, offre-nous une petite pause médicale.
Mais oui, mais pourquoi pas aller vers le côté de HKL et Saltimbanque dans une chanson qui s'appelle tout simplement « Citoyen du monde » issue de l'album du même nom. C'est parti.
Pas d'hymne guerrier, pas de patrie, pas de président. Je n'ai pas d'autre armée que celle de ceux qui veulent combattre pour l'amour en dépit des lois de l'argent. Je n'ai pas d'homme à exploiter, pas de richesse à créer pour mon compte. Je n'ai pas de territoire à défendre contre ces pauvres gens qui viennent des quatre coins du monde. Fallait crever de faim ici tous ensemble. Soyez les bienvenus. Plutôt mourir que de vivre dans l'abondance, couvert de vêtements quand tellement d'autres sont nus. Oh yo, oh yo yo yo. Citoyens du monde, partisans d'un monde sans frontières. Citoyens du monde, partisans d'un monde sans frontières. Il y a le bon étranger, celui
tu accueilles les bras grands ouverts. Et il y a le mauvais, celui que tu pourchasses dès qu'il a franchi ta frontière. Il y a le bon, celui qui te sera utile. Et il y a le truand, celui que tu ne veux surtout pas voir arriver dans ta ville. Si tu cherches la brute, va là où on parle dollar cash et pétrole brut. Mais ne cherche surtout pas le shérif. Je l'ai shooté quand il m'a dit qu'il ne défendait que les riches. Oh, yo.
En tout cas, un grand merci pour votre présence, à Yolan Bresson évidemment aussi à travers vous. Et je voudrais juste dire quelque chose,
c'est que on a créé une association qui s'appelle IBRE autour du travail de papa, enfin de mon père, parce que effectivement. Au niveau des élections présidentielles, on parlait de plus en plus avec Benoît Hamon justement du revenu de base ou universel qu'il voulait mettre en place, qu'il a réduit après par rapport aux jeunes dans son programme, et qu'on voulait défendre les idées de papa par rapport à tout ce qui se développait et qui va encore se développer. Donc bon, on a un peu de mal à faire vivre l'association actuellement parce que bon, c'est un peu compliqué.
Donc, welcome à tous ceux qui s'y intéresseraient pour venir poser leur petite pierre. Est-ce que tu peux redonner le nom de l'association ?
Alors, c'est l'association IBRE, Y-B-R-E, Y pour Yolan et Bré pour Bresson. Donc, c'est mon frère aîné qui est président de l'association actuellement. Moi, je suis trésorier de l'association. Voilà. Mais bon, on a eu quelques défections effectivement au sein du bureau parce qu'on a eu des décès de personnes qui travaillaient avec papa justement et tout, donc ça a mis un peu l'association en difficulté. Donc on essaie d'essayer de la faire revivre un peu plus parce qu'on voulait justement faire un site web et ainsi de suite pour mettre toutes les informations concernant papa, tout ce qui avait été publié en vidéo et ainsi de suite. Mais bon, comme on travaille en même temps, c'est un peu compliqué aussi de faire tout à la fois. Hein. Mais on va essayer quand même de la faire vivre encore, puisque c'est ma mère qui voulait absolument qu'on la mette en place pour justement parler de son héritage et par rapport à la portée du travail qu'il avait fait, qui est quand même très important. C'est vrai qu'il y avait une envie de mon père qui était de passer dans la postérité. Ça, c'est quelque chose qui nous parlait, hein, qui nous en parlait assez souvent. Et la recherche qu'il avait faite et la trouvaille qu'il a eue du capital temps et de la valeur temps lui faisait plaisir parce qu'il savait qu'a priori, on allait encore en parler après sa mort. Voilà.
Oui, mais on a tous besoin de contribuer et c'est vrai. Exactement. Que… Voilà. En tout cas, cette émission est sans doute un premier pas. Donc, je mettrai dans la présentation le lien vers la vidéo dont Maryse a parlé de 2014 pour approfondir et retrouver les idées de Yolan. Et pour tous ceux qui auraient envie de creuser avec vous et de soutenir cette proposition, pourquoi pas la mener jusqu'à la réalité le plus vite possible, s'il vous plaît, parce que certains en ont besoin, là, maintenant. Exactement. Donc, en tout cas, voilà, vous pourrez retrouver l'association Ibre, Y-B-R-E. Un grand merci à vous, en tout cas, et à tout bientôt pour les 10 ans du MFRB cette année. Donc, welcome.
Bon anniversaire.
Au revoir, Max. Merci pour les musiques.
Merci pour tout.
Au revoir.
À bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Eh bien, tout essentiel, c'est désormais terminé. Oh.
Oh. Mais on se retrouve le mois prochain.
Ah, mais ça, c'est génial. Qu'est-ce qu'on fera le mois prochain, dis-moi.
Écoute, Happy Birthday MFRB. On va fêter les 10 ans du mouvement français pour le revenu de base. Et on vous dira tout, d'où on vient, qui on est, où on va. Pour il y a 10 ans, on y pensait. Dans 10 ans, on le fait. Chiche.
Allez, chiche. Rendez-vous le mois prochain. Merci beaucoup, Virginie. À bientôt.
À bientôt, tout le monde.
Je suis essentiel. Je suis artiste intermittent, théâtre ou salle des fêtes. Le public est ma raison d'être, je fais rêver les gens. Moi je suis le monde de la nuit, une boîte, une discothèque. Chez moi on s'enlève de la tête tous les soucis. Je suis essentiel. Je suis essentiel. Ah, ah. Oui, essentiel. Joujou. Faire ses courses à Auchan, engraisser Amazon. Pendant que crèvent des honnêtes gens avec leurs mômes. Métro, boulot, dodo, ça va bien un moment. Les hommes ne sont pas des machines que l'on confine. Je suis essentiel.